Merci beaucoup, Serge Jogres, pour ce beau panorama historique qui nous a mené du 19e siècle jusqu'à la fin du 20e. Et évidemment, la question qui traverse tout ça, c'est est-ce qu'on peut faire confiance aux urnes pour faire la révolution? Et si nous avons suivi ici d'Europe avec tant d'attention ce qui se passait au Chili, c'est parce que c'était en tout cas ce qu'on imaginait que ça allait être le socialisme à travers une voie pacifique, à travers des élections. Et c'est une des raisons sans doute pour lesquelles ici ces événements du Chili ont eu une répercussion aussi importante. Alors, ce que je proposerais, c'est que la discussion générale soit menée en fin d'après-midi, mais s'il y a des questions ponctuelles à poser à ces jeunes, c'est peut-être le moment, s'il y a quelque chose, un éclaircissement à voir. C'était tellement clair que ça ne demande pas de...
Il y a une partie qui a manqué. Hein.
Oui, mais...
C'est l'actualité.
Nous resterons sur notre faim jusqu'à cet après-midi où vous pourrez peut-être intervenir dans la discussion. Alors, je vais appeler Jorge Magasich. Alors, je crois que pour beaucoup de personnes ici, Jorge Magasich n'est pas un inconnu. Mais c'est aussi un historien. Nous sommes nombreux comme historiens à squatter ce bureau aujourd'hui. C'est aussi un historien. Il donne cours à l'IEX et il est pour beaucoup ici en Belgique la voix de ce Chili d'Allende. Il a souvent pris la parole. Il a écrit récemment il a publié une partie de ses articles avec le monde diplomatique. Ça s'appelle Allende, la Unión Popular y el Golpe. Et c'est publié tout récemment par le monde diplomatique en langue espagnole. Je lui cède la parole. Il a promis de nous parler en moins de 30 minutes de la politique étrangère du gouvernement de l'Union populaire, et il va faire un état de la question de l'originalité de cette politique étrangère. Merci, Juan.
Merci, Anne. Et merci, Anna. Eh bien, je vais commencer tout de suite pour expliquer ce que je vais dire. Ça fait partie d'un projet ambitieux. Enfin, j'aimerais un jour pouvoir produire une histoire de la période. Et les derniers mois, je me suis penché sur cet aspect de la politique d'Allende, c'est-à-dire la politique internationale ou la politique de l'unité populaire. Et quand on parle d'histoire, on parle des sources. Je pense qu'il faut citer ce qui me semble les quatre sources principales sur lesquelles je vais baser mon exposé. Et la toute première, c'est un colloque qui s'est effectué à Santiago de Chili en 86, donc c'était encore sous la dictature, et dirigé par un certain Jorge Vera Castillo. Mais il a fait exposer personnellement la plupart des dirigeants de l'unité populaire qui étaient au Chili à ce moment-là, et d'autres, comme Clodomiro Almeida, qui était en exil, ont envoyé une documentation. Ça reste un ouvrage assez complet, et la deuxième moitié de l'ouvrage est une publication d'à peu près toutes les sources, donc toutes les grandes conventions, les grands documents diplomatiques de l'époque sont publiés, ce qui facilite énormément le travail. La deuxième source que j'aimerais citer, c'est la contrepartie. Il y a une espèce de livre avec une vision conservatrice d'un historien de l'Université catholique, donc Joaquín Fernandoaz, qui défend, disons, l'alignement, ou en tout cas défend relativement l'alignement pendant la guerre froide, et qui était un opposant à l'unité populaire, donc qui fait la critique de cette position. La troisième, et il est ici, est l'ouvrage de Joan Garcés. J'avais lu d'abord Soberanos et Intervenidos, ça n'a pas été traduit en français, mais la petite version qui concerne qu'est la guerre froide en Amérique latine. Mais je conseille vivement, j'ai pris connaissance récemment, de lire la version complète, parce que c'est un ouvrage fondamental pour comprendre la guerre froide, pas seulement en Amérique latine, mais aussi en Espagne, en Allemagne et dans d'autres pays. Et le quatrième à citer, c'est Gonzalo Magne, qui est une des grandes histoires de la période, où il y a un chapitre sur l'aspect relations internationales d'Allende, notamment une description de la visite d'Allende à l'Union soviétique. Alors, les postulats de l'unité populaire, c'était sortir de la politique d'alignement, disons de 1943 jusqu'à 1970. Et le Chili est un pays, on peut dire, aligné. Il a rompu avec l'Union soviétique, en tous les pays, il a rompu avec Cuba à un certain moment, donc il a suivi les orientations des États-Unis. Mais la politique du gouvernement de l'unité populaire est sortir de cette politique d'alignement pour pratiquer ce qu'il appelle le pluralisme idéologique, c'est-à-dire des relations diplomatiques et commerciales avec tous les pays du monde, sans aucune exception, et quel qu'elle soit son régime interne. De cette manière-là, ce gouvernement, en fait, le Chili, a ouvert des relations diplomatiques avec 21 nouveaux pays sur les trois continents. Je ne ferai pas la liste, mais il y a des pays en Amérique latine, Cuba, bien sûr, des pays en Europe, qui étaient, par exemple, l'Hongrie, l'Albanie, et 7 pays africains et certains pays asiatiques, avec lesquels s'instaurent donc des échanges diplomatiques et commerciaux. Et le Chili n'a rompu avec personne, si on fait exception de Taïwan, au moment où le Chili a reconnu la Chine et l'ambassade à Taïwan a été retirée, bien sûr. Mais avec cette exception-là, il n'y a eu aucune rupture diplomatique à cette époque-là. Deuxième idée, c'est qu'en 1971, disons, ces politiques est mise à l'épreuve par un événement important. Comme vous le savez, en août 71, Nixon décide de finir avec la convertibilité du dollar. Donc, c'était un grand moment dans l'histoire économique du XXe siècle, parce que jusqu'à ce moment-là, vous savez, une once d'or valait 35 dollars, et Nixon finit avec ses convertibilités parce qu'il souhaitait dévaluer les dollars pour financer la guerre de Vietnam, la course à l'espace et d'autres éléments. Mais la dévaluation était apporté préjudice aux pays du tiers-monde, et notamment au Chili aussi, parce que ces pays avaient ses réserves en dollars, et en général placées dans des banques aux États-Unis. Et donc la valeur de ces réserves se vit diminuée à cause d'une décision prise à la Maison-Blanche, où ces pays, bien sûr, n'ont pas été consultés. Et donc, tout de suite après, les mois suivants, donc la décision de Nixon date de août 71, en septembre 71, 19 pays de l'Amérique latine se réunissent en Argentine, à Buenos Aires, pour planifier une réaction à celle-là. Et alors, là, le ministre de la planification, donc, que je viens de citer, Gonzalo Magne, fait des propositions qui sont tout à fait nouvelles et qui n'avaient pas été prévues. Il dit qu'il faut nous coaliser pour obtenir un nouveau système monétaire international avec une nouvelle monnaie de référence. Et il demande une nouvelle conférence fondatrice des systèmes monétaires internationaux, au fond qui va remplacer celle du Bretton Woods, où doivent être représentés tous les intérêts économiques de la planète. Parce que Bretton Woods, les tiers-monde n'étaient pas là. Donc il faut une nouvelle conférence avec la présence du pays du tiers-monde. Alors ça, c'est un premier aspect général. Un deuxième aspect, suite à ces politiques des États-Unis, est proposé par Salvador Allende, je dirais, dans deux discours parmi ses discours principaux. C'est lui prononcé devant les Nations Unies, donc en décembre 72, et c'est lui prononcé à la séance inaugurale de la CNUSET, UNTAG en anglais, en avril 72, et finalement, où il approfondit, je dirais, sur ces propositions qui ont été faites par Gonzalo Magne. Qu'est-ce qu'il propose à Allende? Il dit tout d'abord, il faut un nouveau système, mais il y a quelque chose qui nous inquiète particulièrement. Il sait, on constate que les pays du Nord, à l'époque on ne parlait pas des pays du Nord, on parlait des pays industrialisés, mais notamment, il dit, les États-Unis, le Japon et la communauté économique européenne de l'époque sont en train de donner plus d'importance au GATT, l'ancêtre de l'Association internationale du commerce, de la OMC, au détriment de la CNUSET. Alors que la CNUSET est un forum beaucoup plus démocratique, tous les intérêts du monde sont représentés. Il est associé aux Nations Unies, alors que ce n'est pas le cas d'IGAD. Donc il a vu que c'était une instance qui était hors de tout contrôle démocratique. Et ensuite, il propose à la CNUSET quatre missions qui sont tout à fait intéressantes. Il insiste dans ce qui a été proposé par Gonzalo Magno, un nouveau système monétaire. Mais pour cela, il fallait une grande coalition du tiers monde, donc préparée, conduite par la communauté internationale, qui sert à financer le développement du pays du tiers monde. Deuxième élément proposé par Allende dans son discours du son devant la CNUSET était que la CNUSET prenne la mission d'examiner, d'étudier les problèmes de l'endettement du pays du tiers-monde. Et il cite le cas du Chili avant. Il dit, le Chili, finalement, l'année d'avant, l'année 1970, avait exporté pour 1200 millions de dollars. Il devait consacrer au service de la dette 408, c'est-à-dire plus que 34%. Donc 34% des entrées en devises étaient destinées au paiement de la dette. Ensuite, donc, il dit qu'il faut examiner ça, les origines de ces problèmes, qui sont souvent injustes, les pays ont été forcés à s'endetter, à cause par exemple de dévaluation, et il faut trouver des solutions aux problèmes de la dette. Troisième mesure qu'il propose, c'est d'examiner les problèmes des médias de communication. Il dit que les médias appartiennent à des grandes consortiums privés qui les contrôlent. Donc, il faut en tout cas que certains médias soient contrôlés par les Nations Unies et toutes les tendances qui existent dans la société doivent pouvoir s'y exprimer. Et la quatrième mesure, c'est demander finalement à toutes les nations du monde de prendre une partie de leur budget de défense ou d'armement, et avec ces capitaux, finalement, fonder un fonds de développement humain homogène, qui devait servir à faire des prêts à long terme aux pays du tiers-monde. Donc, je dirais, voilà les grandes propositions que Allende va tenter de défendre. Ça, c'était, je dirais, un premier niveau qui est la politique générale. Ensuite, je dirais, le seul pays avec qui le Chili a été en conflit, bien que le conflit n'a pas été déclaré, était bien sûr avec les États-Unis. À cette époque-là, on ne connaissait pas encore les cover action in Chile et ensuite les rapports anti, disons, les boycotts conscients de la Maison-Blanche. Mais à cette époque, étaient déjà connues au moins deux choses. Les documents de la ITT, dont une partie a été publiée à Santiago en 1972, qui voulait créer un climat de peur pour finalement créer les conditions qui menaient le Chili en coup d'État, c'est un peu ce qui s'est passé. Et il était connu, en fait, le fait que plusieurs institutions financières, donc la Banque mondiale, les BID, avaient coupé tout crédit au gouvernement chilien. Donc il y avait un boycott économique, en tout cas. Et les États-Unis faisaient, par exemple, un lobbying pour que les pays, les membres du Club de Paris, ne renouvellent pas ou ne renégocient pas la dette avec l'État chilien. Avec ces éléments, le Chili a tenté de négocier avec les États-Unis le seul, finalement, enjeu qui était un sujet litigieux, qui était le paiement d'une indemnité pour l'expropriation des mines de cuivre. Je rappelle que le Chili a payé une indemnité, mais qui a déduit de cette indemnité les bénéfices excessifs, qui Allende a fixé à 12%. Et déduisant ces bénéfices excessifs sur les 5 mines nationalisées, il y a 3 mines qui étaient en dessous de zéro, donc l'indemnité était égale à zéro, et 2 mines qui ont reçu une somme pour l'expropriation. Alors, les États-Unis voulaient renégocier ça, mais finalement, le Chili a proposé d'invoquer un vieux traité qui existait entre le Chili et les États-Unis, qui était un traité qui datait de 1916, mais les États-Unis n'ont pas accepté ces cadres de négociation. Un troisième aspect de ces politiques, c'est que le Chili a commencé, disons, des rapports avec les pays socialistes, les blocs qui, à l'époque, s'appelaient les pays socialistes, qui est passé d'à peu près 0 en 1970, je cite les chiffres, à 51 millions de dollars d'exportation en 1972 et 20 millions de dollars d'importation. Ce n'est pas beaucoup, ça fait quelques pourcents de l'économie chilienne, donc quelque chose de l'ordre de 4 à 5%, mais c'était des nouvelles relations économiques. Par exemple, les premiers échanges entre le Chili et la Chine interviennent à ces moments-là. Alors, quatrième aspect que je voulais développer, c'est les relations avec les pays de l'Amérique latine, qui étaient politiques particulièrement importantes. Le climat n'était pas tellement favorable. Si vous prenez, oui, les plus grands pays, le Brésil, était sur une dictature militaire anticommuniste. Le deuxième, le Mexique, était plutôt un allié du Chili. Mais le troisième, l'Argentine, idem, comme le Brésil, dictature militaire anticommuniste, en crise. Et puis il y avait la dictature en Uruguay, presque, au Paraguay, et Équateur connaissait le cinquième gouvernement de Velasco Ibarra, qui à ce moment-là avait des tensions avec les États-Unis. La Colombie, un gouvernement conservateur, le Venezuela, un gouvernement socio-chrétien. Donc finalement, les seuls pays qui plutôt étaient des alliés d'Allende étaient Cuba, Mexique jusqu'à un certain point, et Pérou, qui à ce moment-là était gouverné par les généraux dits progressistes. Mais avec tous les autres, il y avait des tensions. Je me permets maintenant, par exemple, une chose qui a été découverte il n'y a pas longtemps, c'est que tout de suite après l'élection d'Allende, la CIA a contacté les chefs de l'armée argentine et le chef de l'État argentin, le général Lanusse, pour lui dire, écoutez, il y a un communiste à la tête du Chili et vous avez des problèmes frontaliers avec le Chili. Vous voyez bien qu'on peut utiliser ça. Et Lanusse a dit au chef de la CIA, Helms, lui a dit, général, vous savez votre Vietnam, moi je ne vais pas avoir le mien. Donc le général argentin il a dit pas question d'utiliser disons les litiges frontaliers pour créer des tensions avec le Chili, mais la tentative a été faite de les utiliser. Bon, ça faisait partie de la politique. Alors, et le Chili a su négocier très bien ça avec l'Argentine. Enfin, tous les litiges frontaliers qui étaient nombreux à cette époque-là, on a décidé de les soumettre à l'arbitrage de la couronne britannique, et les deux présidents Allende et Lanusse ont signé un traité dans ce sens. Avec la Bolivie, en fait, il y a deux étapes, parce qu'en Bolivie, il y a un gouvernement, disons, progressiste jusqu'à le mois d'août 71, et ensuite une dictature d'extrême droite. Eh bien, pendant la première période, le Chili, vous savez, la Bolivie n'avait pas, et n'ont toujours pas, des relations diplomatiques à cause de la demande maritime bolivienne. Disons, Allende a demandé deux fois au sénateur Volodia Teite, ils vont aller à La Paz, pour tenter de négocier la question avec une optique favorable. Donc le Chili était prêt, en tout cas, à négocier dans un contexte favorable la demande maritime bolivienne. Mais ensuite, après les coups d'État en Bolivie en août 71, toutes les négociations ont été interrompues. Et même avec celle-là, disons, les échanges économiques avec le Brésil et l'Argentine, même si ces deux pays étaient gouvernés par des dictatures d'extrême droite, ont augmenté par rapport au gouvernement antérieur. Et ont un peu compensé les boycotts des États-Unis, en tout cas en partie. Ce qui n'a pas empêché le Chili de recevoir plusieurs milliers qui sont d'exilés venant de ces pays. Et, y compris, par exemple, ceux qui se sont échappés d'une prison en Argentine. L'Argentine a retiré son ambassadeur à un certain moment, mais donc les exilés ont été envoyés à Cuba. Donc le Chili a été une terre d'asile pour de très nombreux exilés latino-américains, mais les rapports économiques avec l'Argentine et le Brésil ont augmenté par rapport au gouvernement précédent. Et ensuite, dernière question, le Chili faisait partie à cette époque-là de ce qu'on appelait les pactes andants, donc les pactes qui avaient été signés en 69 à Cartagena, avec 5 pays, le Venezuela va adhérer, donc qui étaient la Bolivie, le Pérou, l'Équateur et la Colombie. Et le Chili, qui à ce moment-là, essaye de créer une espèce de marché commun, en tout cas les premiers pas vers un marché commun. Le Venezuela va adhérer début en février 73. Alors, avec ces politiques, il y a eu deux décisions importantes. La première c'était la décision 24, qui était que les 5 pays signataires décident de limiter, par exemple, les droits des sociétés privées à réexporter les capitaux à 14%. Et il y avait interdiction, si vous voulez, d'achat des sociétés nationales. Donc les investissements ne pouvaient se faire que sur de nouvelles activités. Donc, et là, c'était une décision commune à ce moment-là, à ces 5 pays auxquels le Venezuela adhérait par la suite. Et ensuite, il y a eu la décision 56 ou 57, je vais vérifier mes notes, mais cette décision, en fait, c'est pour la première fois une planification industrielle, ou dans le sens que dans les secteurs appelés à l'époque les métal mécaniques, donc une partie de l'industrie de la sidérurgie est planifiée à l'échelle des 5 pays. Donc, quels pays produisent ? C'est resté sur les papiers. Il y a eu un début d'application de cette politique. Et je dirais, c'est la première tentative que je connais de planifier une activité économique significative à l'échelle des 5 pays. Et donc voilà, et je arrive à mes conclusions. Je dirais que cette politique a annoncé des prémices qui, même en les relisant récemment, j'étais étonné par l'actualité. Donc, revoir les questions de la dette. Ah oui, et j'oubliais, Letellier, comme ministre des Affaires étrangères, a fait des nouvelles propositions qui sont encore à la fin tout à fait d'actualité, de créer une banque centrale latino-américaine en utilisant les réserves du pays. Vous savez, la plupart des pays, des banques centrales, possèdent des réserves en dollars, c'était le cas, qui sont placées aux États-Unis. Pourquoi pas ne prendre ces réserves et faire une banque à nous, et lesquelles on puisse demander des emprunts et tout ça. Et aussi de réfléchir à un instrument d'échange différent au dollar. Il existait déjà certains, enfin des trocs, si vous voulez, des systèmes de trocs, mais de créer un instrument d'échange qui évitait l'achat des devises, qui était finalement assez difficile. Alors, la plupart de ces mesures, bien sûr, n'ont été qu'énoncées, où il y a eu un début d'application, enfin, ils n'ont pas eu le temps d'aller très loin, ces mesures ont dit un an et demi au maximum, d'application. Mais j'étais étonné par l'actualité, si vous savez en résumé. Intégration de l'Amérique latine sans les États-Unis, donc une organisation différente à l'OEA. L'OEA devait rester une organisation de dialogue entre l'Amérique latine et les États-Unis. Ensuite, planification économique à l'échelle des pays andants de l'époque. Donc, c'est le pacte qui fonctionnait mieux. Et ensuite, faire, disons, encourager les pays du tiers-monde à demander, si vous voulez, une espèce de nouveau Bretton Woods, une refondation des systèmes économiques internationaux, et puis revoir les systèmes de presse, revoir les, et assurer les systèmes de financement du développement du tiers-monde. Donc, en conclusion, c'est une politique qui me semble qui reste très actuelle. Voilà ce que je voulais dire, simplement, et un résumé de ce que je viens de dire en français, se trouve dans l'édition électronique du Monde diplomatique dernier, et en espagnol un peu plus grand dans la brochure que vous avez vue. Et on peut accéder aussi par Internet au Monde diplomatique chilien. Et donc voilà ce que je voulais vous présenter. Merci.
Okay. Je pense que c'était très complémentaire. Nous avions eu d'abord un panorama historique, je dirais jusqu'aux élections de 1970. Et puis voilà la politique étrangère, une politique audacieuse. De même, pour cet exposé, il fera partie de la discussion générale, mais s'il y a des questions ponctuelles sur cette politique étrangère, je crois que Jorge se fera un plaisir d'y répondre. Pas de questions ponctuelles. Nous avons alors le grand plaisir et honneur de recevoir Juan Garcés. Il est ici en tant que je dirais excellent connaisseur de la question qui nous préoccupe aujourd'hui, mais il est aussi là comme témoin, puisque c'est un éminent juriste, mais il a aussi été conseiller de Salvador Allende, et donc c'est pour nous un grand honneur de l'avoir aujourd'hui parmi nous pour nous parler des risques d'une politique indépendante. Et je lui cède immédiatement la parole en le remerciant beaucoup d'être venu parmi nous.
Merci beaucoup. Je vais m'asseoir.
Oui.
Et bien que vous savez contrôler le temps, je suis un con, également un temporiseur, qui va nous aider.
Alors, j'ai la merde. Il sonne si, si vous dépassez le temps. Ça facilitera la tâche.
Merci beaucoup pour cette invitation et avoir l'opportunité.
Il faudra parler bien fort parce que vous faites le micro enregistre.
Avoir l'opportunité de partager avec vous ces moments et de rencontrer des vieux amis, en particulier Frédéric Debuist, que vous connaissez tous, avec qui j'ai eu la grande satisfaction d'étudier pendant la campagne électorale présidentielle de 1970 les programmes des trois candidats. Une analyse sémiologique qui a été publiée dans la revue latino-américaine des sciences politiques et publiée par la suite dans un livre que j'ai édité avec d'autres textes, et qui reste, à ma connaissance, l'analyse la plus profonde
et
la plus profonde des choix que les Chiliens avaient devant eux en 70, et qui, dans l'application des méthodes sémiologiques, anticipaient déjà les lignes de fracture qui, par la suite, se sont développées dans la pratique dans les années qui ont suivi. Donc, de ce point de vue-là, je suis très fier de cette analyse. Je parlerai plus tard avec Frédéric, qui je n'ai pas vu depuis longtemps, s'il a fait le même bilan ou pas que moi. J'ai écouté avec beaucoup d'intérêt les deux interventions antérieures. Et la première portée sur un sujet qui m'est cher, celui du débat idéologique sur la tactique et la stratégie et dans les faits du gouvernement Allende. Et un sujet sur lequel j'ai publié en 1976 un livre aux presses de la Fondation nationale des sciences politiques de Paris qui s'appelle Allende, l'expérience chilienne, et qui vient d'être réédité en espagnol il y a quelques semaines, et où je développe, n'est-ce pas, ce qui a été ma vision des faits tel que je les voyais à côté dans la présidence de la République du Chili. Et donc cela m'évitera ceux qui seront intéressés pour ce sujet. Et cet après-midi, j'ai amené avec moi plusieurs exemplaires qui sont à votre disposition. J'ai également écouté l'intervention du professeur Jorge Magasich, qui a évoqué d'une manière très juste ce qui est l'ensemble de la politique étrangère du gouvernement Allende. Moi, je voudrais maintenant voir ces phénomènes sur lesquels nous sommes convoqués, autour duquel nous sommes convoqués, mais dans une perspective d'aujourd'hui, dans le sens de dire de rétroagir vers 40 ans en avant. Nous savons beaucoup il y a ici beaucoup de jeunes, mais il y en a d'autres qui ont le privilège d'avoir vécu ces 40 années d'une manière consciente. Et donc nous pouvons bénéficier aujourd'hui d'un recul dans les temps que nous n'avions pas à l'époque. Et on pourrait également, et je vous suggère, puisque nous sommes dans un centre académique, d'appliquer à l'analyse politique aussi, à titre tentative, heuristique si vous voulez, la théorie des grands cycles, avec toutes les nuances, comme les économistes et Kondratiev déjà le disaient, il y a les grandes tendances, les grands cycles, mais à l'intérieur des grandes tendances, il y a des changements. Alors, si on est en train de vivre en Europe et dans le monde capitaliste en général une grande crise depuis la 2007, la plus grave depuis la grande crise des années 29 du 20e siècle. Et je souhaiterais que vous regardiez l'arrivée au gouvernement Allende, la fin du gouvernement Allende, dans cette perspective. Face à la grande crise du système capitaliste des années 20, il y a eu au sein du monde capitaliste deux grands modèles de réponse. Il y avait un troisième modèle économique, mais qui était en dehors du système capitaliste, c'était celui des plans quinquennaux de l'Union soviétique. L'Union soviétique était isolée du système capitaliste. Et au sein du monde capitaliste, les deux grands modèles ont été les solutions fascistes, dans différentes modalités. En Italie, elle était différente de l'Allemagne, en Espagne, au Portugal, elle était différente à leur tour, mais il y a certains éléments communs, c'est la réponse fasciste.
Et fait encore signe qu'on voudrait vous entendre.
Donc le modèle de la réponse fasciste, oui, à la grande crise du système capitaliste des années 20. Il y a un autre modèle, qui est celui du New Deal, qui prend se développe aux États-Unis à partir de l'administration Roosevelt. Alors, l'histoire du Chili, du mouvement populaire chilien, ce qui se développe à partir de cette grande crise, est extrêmement lié au développement, disons, des adaptations chiliennes du modèle du New Deal. En fait, le gouvernement du Front populaire qui s'installe au Chili en 1938, c'est également une adaptation chilienne des grandes lignes à l'intérieur de ces modèles. Et il est tellement compatible que l'instauration de ce gouvernement des fronts populaires en 1938 ne fait pas boucher les États-Unis. Les États-Unis ne trouvent absolument aucun conflit d'intérêt avec les gouvernements des fronts populaires, qui sont bien entendu intérêts incompatibles. Et pourquoi les États-Unis ne bougent pas d'un doigt contre le gouvernement des fronts populaires chilien en 1938, alors que la droite chilienne était farouchement contraire, et même il y avait des éléments fascistes à l'intérieur de la droite chilienne, et il y avait également des appels au coup militaire. Et il y a eu des tentatives de coup militaire. Le général Ariosto, par exemple, une tentative de coup à Santiago, a offert un avion au président du Chili pour quitter le pays et le remplacer par un gouvernement militaire. Les États-Unis n'étaient pas derrière ce coup, ils n'ont rien fait. Qui était le président des États-Unis en 1938? Donc l'homme qui venait en avant le programme du New Deal. Et donc on peut voir que les gouvernements Allende a développé jusqu'en extrême inconnu dans l'histoire du Chili les grandes matrices du New Deal à la chilienne. Et en fait, la politique économique était dirigée par des économistes qui venaient de l'école de la CEPAL, la Commission économique pour l'Amérique latine, dont la tête pensante à l'époque, c'était l'économiste argentin Raoul Prebisch, et qui attribuait à l'État des fonctions de régulation et d'intervention de la vie économique, de promotion d'activité, l'industrialisation vers l'intérieur, et réduire les inégalités internes. Cette politique est la politique qui est appliquée au Chili, bien entendu, dans une perspective sociale et politique, et où l'orientation de dépassement de l'imitation capitaliste était, et bien entendu, prioritaire, avec un horizon de socialisme, mais en développant la démocratie comme moyen de parvenir à de nouvelles phases et dans l'évolution du pays. Le mur chilien, le mur démocratique chilien, a été détruit en 1973. J'entends beaucoup des fois parler l'échec du gouvernement de l'unité populaire, l'échec d'Allende. Moi, je n'emploie jamais le terme échec. Dans la lutte sociale et la lutte collective des peuples, et tant que les peuples sont vivants, il y a des plus et des hauts. Il n'y a pas de victoire décisive et irréversible, il n'y a pas de fait irréversible, rien n'est irréversible dans la mesure où il y a de la vie. Et si quelqu'un avait des doutes là-dessus 40 ans après, regardez ce qui se passe au Chili aujourd'hui. C'est-à-dire, et le professeur Gress l'a expliqué, et à quel point la jeunesse d'aujourd'hui, la société chilienne, se demande et quelles sont les voies de sortir de l'inefficacité actuelle ou des problèmes actuels, et où est-ce qu'elle regarde, bien entendu, en ce qui concerne leur pays, et ils regardent à ce qui a été l'expérience des années 70-73. Vous regardez également ce qui se passe en Amérique latine, en général. Les pays qui essayent d'ouvrir des voies nouvelles pour la région, pour leur système économique intérieur, pour la redistribution et le contrôle des ressources naturelles et à l'intérieur de leur pays, pour la coordination des finances, des exportations et des industries de ce pays-là, et regarder à quel point cette démocratie participative et d'une plus grande indépendance nationale et régionale en même temps, n'est-ce pas, a beaucoup de ressemblances et des points communs avec ce qui vient d'expliquer tout à l'heure de la politique étrangère promue par le gouvernement Allende et ce qui était les aspirations du peuple chilien. Donc, on peut dire que cet échec, entre guillemets, je préfère l'appeler le débordement du mur des contentions de la démocratie chilienne. Par qui? Qui a débordé ce mur-là? Bien sûr, si on remarque, on regarde seulement à l'intérieur du Chili, il y a les sujets qu'on connaît, n'est-ce pas? Mais si on vous regarde dans une perspective des 40 ans, ou si vous voulez, et je vous suggère, remontez-vous à la période qui peut vous donner une date de référence de départ de 1929, c'est la lutte des intérêts locaux, et surtout internationaux, qui, en lutte contre l'héritage, le développement du New Deal. Il faut vous rappeler que le New Deal a été imposé aux États-Unis après une très forte et dure lutte de l'administration Roosevelt. Le secteur économique très puissant au sein des États-Unis, politique et idéologique également, ont fait une résistance farouche à l'administration Roosevelt. Et encore aujourd'hui, parmi les survivants de l'époque, ils gardent dans leur cœur et dans leur tête une haine extraordinaire à Roosevelt, qu'ils considèrent un socialiste, un communiste, n'est-ce pas, enfin, la négation même de ce qui est la conception des États-Unis de ce secteur-là. Eh bien, ces secteurs, bien entendu, ont été submergés par le New Deal, mais ils étaient toujours là. Et ils ont continué à faire assistance à cela. L'année 73 montre, se situe dans une période charnière. Ces forces-là, qui ont leur centre dans le système capitaliste international, et surtout les centres hégémoniques, n'est-ce pas? Et à cette période-là, qu'ils réussissent à percer l'œuvre de New Deal dans ces différentes manifestations nationales, qui sont différentes les unes des autres, mais qui ont des éléments quand même communs. Et derrière donc la politique économique qui est imposée au Chili par la force à partir de 1973, il y a cette composante internationale qui devient des forces du capitalisme international, qui devient institutionnelle à partir de la prise de l'élection de l'administration Reagan aux États-Unis ou de Thatcher en Grande-Bretagne, et qui s'applique depuis lors d'une manière systématique à briser les alliances sociales et politiques sur lesquelles s'est appuyé les libéraux. Et à démanteler la capacité de l'État dans les fonctions qui lui étaient attribuées. Alors, cela me mène à indiquer l'importance pour la politique étrangère du Chili de disposer d'un État avec des ressources économiques propres. Il y a une articulation entre les moyens d'une politique étrangère indépendante et les moyens économiques pour la soutenir, et vice-versa. Les besoins d'une politique internationale et indépendante pour pouvoir disposer de la maîtrise des ressources économiques nationales. La vision qu'on avait en 70-73, c'était une vision globale, qui ne partageait pas du tout ce qui étaient les intérêts des puissances hégémoniques dans chacune des sphères d'influence dans lesquelles le monde était divisé à l'époque. C'est un moment où le continent euro-asiatique est fragmenté. Il y a bien entendu la puissance soviétique qui est confrontée à la puissance émergente de la Chine. Et il y a l'Europe occidentale qui est sous le contrôle militaire de l'OTAN. Voilà, grosso modo, la situation du continent euro-asiatique. Trois blocs les uns face aux autres. La vision que nous avions de la partie du Chili était de ne pas accepter cela. Et donc, les rapports économiques et diplomatiques avec l'Europe capitaliste devaient être continués à développer, mais on devait reconnaître également la réalité du bloc socialiste de l'Europe de l'Est, et surtout on devait reconnaître que ce que c'était, la Chine comme réalité démographique et économique en ce moment et dans l'avenir. De là, par exemple, que c'est le Chili, le premier pays continental qui a reconnu la Chine en 1971. Et lorsque Allende a voyagé aux Nations Unies en décembre 72, comme a été évoqué tout à l'heure, et ensuite à l'Union soviétique, et son idée initiale, nous en avons parlé, c'était de faire le voyage New York, Moscou, Pékin. Et il voyait comme ça. Et pourquoi faire entre nous dans la différenciation, les conflits qu'il y avait à ce moment entre la Chine et l'Union soviétique, bien exploité par les Américains, bien entendu, et à leur intérêt en reconnaissant la Chine. Il n'a pas pu faire son idée. Et il ne pouvait pas, entre autres raisons, il voyageait avec un avion soviétique de New York à Moscou. Et c'est impensable de le demander aux Soviétiques à ce moment-là, prêtez-nous l'avion, maintenant pour aller voir vos chers ennemis voisins, les Chinois. Mais c'était son intention et son idée qui reflétait sa vision du continent euro-asiatique. Et comme il a été dit pour l'Amérique latine, c'était bien résumé par Jorge, mais je mets l'accent sur ses voisins. L'accord avec l'Argentine pour créer les bases de l'accord sur les différents du canal de Beagle. Et ça a été créé par le gouvernement Allende dans ses négociations avec l'Argentine. Les rapports qu'il avait extrêmement étroits avec le Pérou, alors qu'on s'avoisinait vers le centenaire de la guerre du Pacifique en 1979, donc il n'y avait aucun problème ni aucune préoccupation que ces centenaires pourraient soulever des conflits frontaliers ou autres avec les Péruviens. Et pour la Bolivie, il y a une chose qu'on ne connaît pas et que je commence à parler récemment, c'est que le gouvernement démocratique élu de Juan José Torres, qui était en place avec un parlement populaire également élu en Bolivie, il a été l'objet d'un coup d'État en août 1971. Et Allende vivait, et le président bolivien a assisté 2-3-4 jours de coup d'État, il était en général. Et il vivait d'une manière tellement intense et avec une préoccupation ce développement des coûts en Bolivie, qu'il voulait aider un gouvernement comme celui-là, alors qu'il n'y avait pas de relations diplomatiques entre les deux. Mais il y avait des négociations très avancées pour résoudre le problème de la méditerranéité de la Bolivie. Alors, il a comment aider? Et il ne pouvait pas envoyer un chilien, ça c'était impensable. Il faut connaître l'histoire et la réalité pour le comprendre. Et alors il a invité le seul groupe qui existait au Chili, qui disait qu'il avait des gens capables de manier les armes, c'était le MIR. Il a invité les dirigeants du MIR, il leur a dit, j'ai tout préparé pour que vous puissiez passer à la passe et aider à soutenir le gouvernement légitime de la Bolivie qui lutte contre un coup d'État. Et la réponse qu'il a reçue de la direction du MIR a marqué définitivement la mission qu'Allende devait avoir à partir de ce moment-là du MIR. Il a vu là un décalage total entre ce qui était la rhétorique du MIR par rapport à la lutte armée, l'Amérique latine, etc., et la réalité des faits. Et il faut tenir compte.
Ils ont refusé, bien sûr. C'est ça.
Et il faut bien comprendre cette réaction d'Allende face à la direction du MIR et l'engagement latino-américain. Lorsqu'un gouvernement si important pour le Chili et la Bolivie, comme c'était la Bolivie, qui 4 ans avant, le Che Guevara était en Bolivie, l'idole du MIR, n'est-ce pas, et un grand ami d'Allende. Et lorsque les survivants de la guérilla du Che sont entrés au Chili, fuyant, n'est-ce pas, d'être assassinés en Bolivie, Allende était le président du Sénat. Et il a mis en jeu sa carrière politique en allant les rencontrer au nord du Chili et en voyageant avec eux dans son avion jusqu'à territoire français à Tahiti. bien entendu, la brasilienne a dit comment le président du Sénat va réveiller les terroristes, etc. Mais il n'a pas hésité à mettre en risque sa carrière politique parce que c'était conforme à ses convictions. Et donc, c'est un exemple de ce que je vous donne sur l'engagement actif qu'il avait de la solidarité latino-américaine dans les valeurs qu'il avait. Alors, pour revenir au sujet qui m'intéresse en particulier, c'est ce développement à partir de 1973 de la démolition progressive des piliers du New Deal dans les différentes manifestations nationales et qui s'est succédé progressivement jusqu'à arriver à la grande crise dans laquelle nous sommes. Et un exemple de cela assez graphique, c'est bien dommage que nous n'ayons pas ici la possibilité de faire une projection, c'est si vous prenez par exemple un article, un travail qui vient d'être publié aux États-Unis, qui s'appelle Striking It Richer, The Evolution of Stopping Camps in the United States. C'est sur la distribution des revenus dans la société américaine. Et là, vous voyez quand même cette courbe où il y a un enfoncement et ensuite une reprise, n'est-ce pas? Voilà. Ici, ça représente la distribution des revenus de l'appropriation de l'ensemble du revenu national américain par le 0,01% de la population, sans du pouvoir économique. 0,01%, qui, à la veille de la crise de 29, donc en 28, faisait 5%. Le 0,01% accumulait les 5%. Et vous voyez la chute. Eh bien, ça, c'est le New Deal. Et qui provoque que cette faction au sommet du pouvoir économique chute de 5% à un peu plus, à environ 1%. La chute est verticale, 5 ans. Et ça, et descend encore plus à partir de 43 et environ 0,5%. Et ça commence à remonter quand ? En 73-74. Et ça remonte jusqu'à arriver à 5% à nouveau quand en 2003, n'est-ce pas? Donc cette reprise du contrôle par la fraction la supérieure des concentrations des pouvoirs et des ressources capitalistes qui montre la démolition progressive des piliers de l'état du bien-être et des principes de la répartition et qui fondait cette politique du New Deal et qui était appliquée en Europe occidentale, le welfare state, particulièrement les années glorieuses, les plein emploi, les distributions de la richesse, l'éducation publique, la santé publique, etc. Au Chili, ce sont ces piliers-là qui ont été systématiquement démolis à partir de 1973. Par la force. Le Parlement a été fermé, les partis politiques interdits, la liberté de la presse supprimée, les organisations ouvrières persécutées et réduites à l'impuissance. Et donc c'est à la faveur de ces contextes qu'on a appliqué pour la première fois, et ça c'est le cas, Pinochet était arrêté à Londres, lui a remercié, les principes, n'est-ce pas, qui par la suite, par d'autres moyens, ont été appliqués dans d'autres pays. Et qui arrivent maintenant en Europe occidentale aujourd'hui sous la forme que nous vivons, par exemple, je viens de l'Espagne, où j'assiste depuis 2007 à la manifestation de l'application des mêmes principes des politiques économiques de démantèlement de l'État et dans ses fonctions sociales, de démantèlement de l'éducation publique, de la santé publique, et de la recherche du plein emploi, etc., etc., comme une manière délibérée pour que la crise économique permette, à un moment donné, de transformer ce qui a été la conquête des générations de luttes sociales, des luttes ouvrières, bien entendu, mais également d'autres classes sociales, et pour maîtriser un peu la situation économique et la rendre plutôt plus au service des personnes qui n'ont pas au service du capital. Bon, pour les gouvernements allendés, et cette fonction de l'État était économique de l'État était indispensable pour la dépendance nationale et pour la transformation d'un sens socialiste. Dès là qu'il a appliqué les droits internationaux, et en 1969, les Nations Unies avaient approuvé une déclaration sur les droits des peuples au contrôle de leurs ressources naturelles. Pour le Chili, bien entendu, c'était le cuivre. Et c'était impossible donc de développer son idée de transformation sociale sans maîtriser ce qui était là et reste encore la principale source de revenus du pays. Il a nationalisé les grandes mines de cuivre et encore aujourd'hui, depuis lors jusqu'à maintenant, sans interruption, la principale source de revenus de l'État chilien, c'est justement l'entreprise nationale de cuivre créée par le gouvernement Allende. Et la capacité, le système financier, nous l'avons vu ici, en Espagne en particulier, si je le connais bien, mais je crois qu'il y a aussi en Belgique et dans d'autres pays, mais je parle du pays que je connais bien, Et plus de 40 000 milliards d'euros ont été investis en Espagne ces dernières années pour combler les gouffres que les banques elles-mêmes, banques privées, ont créés. C'est donc la crise bancaire qui entraîne l'ensemble du système économique et des conquêtes sociales qui ont été accumulées pendant des générations. Mais aujourd'hui, on n'a pas eu ça. Tout de suite après l'arrivée au gouvernement, le gouvernement a acheté en bourse les actions des banques, toutes les banques, et la banque a été nationalisée. Mais non pas nationalisée mano militari, mais par les moyens des marchés, achetant des titres. Et les banques ont mis leur capacité financière au service de la politique nationale. Et la seule fois dans l'histoire du Chili où le système financier a fait faillite, c'était sous Pinochet, pas sous le gouvernement Allende. L'industrie, c'était donc, j'avais dit, la politique d'influence des New Deal, et en particulier des équipes économiques de la CEPAL, de favoriser la substitution des importations par le développement de l'industrie nationale. Et pour cela, il a développé le secteur industriel, soit des titularités publiques, soit des entreprises mixtes, publiques et privées. Car c'était incompatible de pouvoir développer une politique étrangère indépendante avec ayant une économie qui était tout à fait soumise à dictats et aux décisions économiques prises ailleurs. Ce que nous vivons aujourd'hui en Europe, c'est une manifestation de l'opposé. À quel point, en ce moment, les États de l'Europe occidentale, les miens en particulier, et se voient de plus en plus privés des ressources de l'État pour maîtriser leur situation économique sous une idéologie qui répond à des intérêts. Si vous regardez derrière l'idéologie, quels intérêts défendent ces points de vue-là, vous le verrez. C'est-à-dire la privation à la souveraineté populaire du contrôle des ressources vitales des sa société, de la société. Et les parlements sont de plus en plus vidés de la capacité de décider de la politique économique. Chez nous, le parlement ne peut même pas aspirer à être la dernière parole dans l'approbation du budget. Il est soumis à des contrôles extérieurs. Et la monnaie est une monnaie qui ne répond à aucun contrôle politique, justement. Ni le gouvernement ni le Parlement ne peuvent rien faire là-dessus. Et ceux qui prennent les décisions, non seulement les prennent en dehors de tout contrôle démocratique, mais en plus en toute impunité. Parce que quoi qu'ils fassent, la loi leur épargne toute possibilité de poursuite. Et donc, de ce point de vue-là, vous voyez à l'œuvre aujourd'hui, dans notre société actuelle, des manifestations qui ont été appliquées au Chili. Après 1973, par les moyens brutaux qu'on connaît. Et est-ce que ça n'a pas sonné?
Je crois que.
Non, et j'en suis au 20. 27 minutes.
Trois minutes. C'est très bien.
J'étais étonné que ça ne sont pas.
Pour ça. Vous aviez encore 3 minutes là.
Exactement. Mais je vais réfléchir. Et donc, le mur démocratique chilien a été débordé, mais a été débordé dans ces conditions-là. Et on ne peut pas donc analyser la vie interne du Chili exclusivement en fonction des facteurs internes. Ils sont importants, bien entendu. Au bout du compte, ce sont des Chiliens qui prennent les décisions ou qui font les actions que nous connaissons tous. Les centres d'agression, les centres de résistance, etc. Mais il faut comprendre que même au gouvernement, n'est-ce pas, les capacités d'action sont limitées pour tout le gouvernement. Mais il faut considérer également les éléments extérieurs. Et ces éléments extérieurs sont ceux qui ont brisé ces murs-là parce qu'ils avaient besoin de les briser. Là, ça c'est écrit. La direction stratégique américaine veut regarder le Chili et elle sentait les dangers stratégiques qu'une consolidation de l'expérience de l'unité populaire au Chili pouvait avoir, non seulement pour l'Amérique latine, mais pour d'autres régions du monde, parce que c'était le socialisme associé à démocratie en développement, alors que l'idéologie de la guerre froide était socialisme égal dictature, despotisme. Donc c'était l'inverse. Et du point de vue économique, que l'économie soit mise au service du développement du pays et de la société, et non pas au service du capital national ou international, bien entendu, c'était inacceptable pour certains centres de pouvoir qui se sont mobilisés pour briser ces murs-là. Mais aujourd'hui, en regardant ce qui se passe en Amérique latine, dans d'autres régions du monde, et en particulier au sein du Chili, je me dis, bien, s'il regarde, il trouve là des éléments de réflexion qui leur sont utiles, c'est justement parce qu'on a suivi la voie qu'on a suivie. Ce que Kissinger attendait et souhaitait, c'était provoquer Allende à une action de force, de résistance, et une sorte d'auto-coup, c'est-à-dire qu'il pousse, essayer de se soutenir, qu'il viole la constitution chilienne en imposant des mesures illégales, qui avancerait, n'est-ce pas, des mesures de dictature pour soutenir son gouvernement. Ça, c'était l'expectative, qui finirait par ça. Non, Allende n'était pas, il était convaincu, il l'a dit d'ailleurs publiquement, mais je ne sais pas si j'entretien à tête à tête, que jamais il devait laisser le Chili s'enlisser dans cette optique-là. Il est venu, il a sacrifié sa vie. Mais c'est grâce à cela que les jeunes Chiliens aujourd'hui regardent avec intérêt cette période-là. Si jamais il y avait eu, par exemple, la sortie qu'avait essayé quelques années auparavant, en 1965, en Indonésie, le Parti communiste, qui voyant venir un coup d'État, s'est avancé en donnant à son tour le coup d'État, comme ça a été Jakarta. Et le coup d'État de gauche a été, bien entendu, étouffé. Mais ils ont perdu la légitimité pour l'avenir. Et maintenant, je crois que j'en suis à 3 minutes. Voilà donc, en quelques mots, comment je vois, 40 ans après, cette articulation d'une manière personnelle.
Encore une fois, s'il y a des questions ponctuelles à lui poser, ce serait maintenant, mais il y aura une discussion plus générale. Et s'il n'y a pas des choses ponctuelles à lui demander, je propose qu'on fasse une petite pause. Vous aurez l'occasion là-bas, on espère, d'avoir une petite boisson. Vous pourrez aussi vous inscrire sur la liste de ceux qui veulent avoir des informations sur le Centre d'Histoire et de Sociologie des Gauches et de faire connaissance aussi avec nos orateurs qui seront sûrement à votre disposition.